Bienvenue à tous dans l'émission Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth, dont vous pouvez retrouver toute l'actualité sur le site mariedenazareth.com. N'hésitez pas à nous écrire pour nous confier vos impressions sur notre émission, pardon. Et vous pouvez aller aussi sur le site mariedenazareth.com pour recevoir ou confier des intentions de prière. Voilà. Justina, nous sommes heureux comme toujours de vous écouter. Aujourd'hui, vous répondrez à la question « S'il n'y a qu'un Dieu, pourquoi existe-t-il plusieurs religions ?» Bonjour Justina.
Bonjour.
Bonjour mon père.
Bonjour madame.
Le père Caz sera à nos côtés pour nous présenter le spectacle musical « Yeshua » dont l'association Marie de Nazareth est partenaire, donc vous y retrouverez des publicités sur notre site. Si vous connaissez Oura et Malka, réjouissons-nous et réjouissez-vous, il y a une suite, hélas la dernière puisque c'est une trilogie. Alors Justina, nous entendons souvent cette phrase « S'il n'y a qu'un Dieu, pourquoi existe-t-il plusieurs religions ?» Mais y a-t-il plusieurs religions, plusieurs croyances ? Et quelle place dans nos vies ce besoin de transcendance habite-t-il ?
Vous posez plus de questions que je n'ai prévu de réponses. Je voulais juste vraiment aborder les questions qui fâchent, puisqu'on est en période du cycle apologétique.
Oui.
Et c'est vrai que c'est une question qui fâche. Et je vais la traiter brièvement, malheureusement, car je suis limitée par le temps. Et j'invite toujours nos auditeurs à aller plus loin. Et il existe, bien sûr, d'autres possibilités de traiter la question du jour. Mais moi, je vais le faire à ma sauce. Et pour répondre à cette question à ma sauce, nous allons déjà définir les mots. Et nous allons commencer par la religion. Il n'existe pas de définition universelle reconnue par tous. J'ai donc le choix de définition et je vais prendre une définition sociologique afin qu'elle soit la plus neutre au possible. Cette définition me permettra de sortir du dilemme apologétique classique qui s'impose habituellement face à cette question. Quand la pluralité religieuse est opposée à l'unicité de Dieu. Le dilemme classique est soit de déclarer toutes les autres religions, sauf la mienne, comme fausses, ou bien de faire l'inverse et tomber dans le syncrétisme partiel ou total en reconnaissant partiellement ou totalement toutes les religions sur le même plan. Et de mon point de vue, ce n'est pas des choses à faire. Donc je vais volontairement faire une pirouette afin de tout simplement me sortir de la question qui, en général, sert à piéger. Selon le père de la sociologie française, Émile Durkheim, la religion est un culte sociétal qui vise à réguler l'abîme entre ce que cette société considère comme sacré et profane. Donc, la première chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que le concept de Dieu n'est pas du tout un composant nécessaire dans une religion. Le bouddhisme en est bien la preuve, c'est une religion non théiste qui ne se focalise pas du tout sur la recherche du personnage divin. Les religions polythéistes n'ont nullement besoin d'un dieu monothéiste unique pour être des religions. Ce qui compte avant tout, dans la définition de Durkheim, c'est une communauté qui se partage des convictions métaphysiques, morales, et cherche à réguler le rapport entre le pur et l'impur, autrement dit le sacré et le profane. Durkheim démontre de ce fait que les pratiques dites magiques n'en font pas partie, car selon lui, citation, « il n'y a pas d'église magique ». Car une personne qui prétend pratiquer la sorcellerie a des clients et non des adeptes. Les clients ne sont pas reliés par un système de valeurs ou d'idées métaphysiques communs, sauf s'il n'est que l'espoir que la magie de cette personne va fonctionner. Le deuxième point important, c'est la dualité du pur et impur, parce que finalement ce sont les synonymes du sacré et de profane. Sont les éléments centraux d'une religion, car c'est l'équilibre entre ces deux concepts que les adeptes essaient de réguler. Dans l'absolu, le sacré appartient au divin, là où, en revanche, le profane s'avère par définition exclu de ce dernier. Mais ces concepts demeurent inintelligibles et indéterminés si on ne les comprend pas dans leur interrelation, comme les concepts antiques du pur et impur. Comme nous l'explique Lagrange dans son dictionnaire...
Alors, qui est Lagrange ?
C'est un auteur du dictionnaire philosophique. Et je me suis inspirée aussi de son article sur le pur et l'impur. Ce qui est profane peut devenir sacré. Ce qui est sacré peut très bien devenir impur et doit même le devenir dans une religion différente, exclusive, puisque tout ce qui est sacré dans un culte est nécessairement une abomination pour ceux qui le condamnent. En d'autres termes, le pur et l'impur, le sacré et le profane sont des concepts que Durkheim, dans son ouvrage « Les formes élémentaires de la vie religieuse », qualifie de contagieux. c'est que Durkheim entend donc par le concept de contagiosité implique le fait religieux présupposé de poser le pur et l'impur, le sacré et le profane, comme deux réalités initialement séparées, irréductibles l'une à l'autre, mais néanmoins en relation dialectique. Pour faire beaucoup plus simple,
oui, quand, s'il vous plaît,
je vais donner des exemples. Par exemple, si vous prenez les religions, que ce soit, admettons, le judaïsme, l'islam, le shintoïsme, ou même les religions, les croyances africaines, le sang menstruel serait considéré comme impur.
Oui.
Dans la magie, on va justement l'employer. Donc c'est par là où je parle, Durkheim plutôt explique que ce qui est considéré comme pur, impur, il y a cette inversion. On va utiliser quelque chose qui est profondément perçu comme impur dans un rite magique. C'est pour ça que ailleurs Durkheim dit aussi que la magie s'amuse à contaminer les choses sacrées et donc les rendre profanes. La même chose entre le profane le sacré sur un autre aspect. Si vous prenez un objet liturgique quelconque qui est dédié vraiment à une fonctionnalité liturgique, grosso modo, si on prend un calice et qu'on commence à prendre le café dedans, ça serait effectivement du sacrilège, puisqu'on défroque le calice de sa fonction liturgique. Donc l'un peut contaminer l'autre. Et ce qui est vrai pour tous les systèmes religieux, c'est que, après, les définitions sont très très différentes, elles varient, mais il y a toujours cette volonté de réguler cet entre-deux pour que l'un ne déborde pas sur l'autre. Et c'est bien pourquoi que ce soit pour Durkheim ou pour Lagrange, les deux posent qu'il existe un sacré pur et un sacré impur, un sacré faste et un sacré néfaste, par-delà de l'abîme séparant les deux concepts. Le sens à donner à cette distinction paradoxale engage la définition qu'on donne à la pratique religieuse en général. L'approche de Durkheim, qui nous démontre que les religions non chrétiennes sont des cultes sociaux et collectifs qui visent à réguler l'abîme entre le sacré et le profane, nous laisse donc penser que l'incarnation, en interne, d'un point de vue interne chrétien, que l'incarnation du Christ a dépassé la nécessité de combler cet abîme entre le sacré et le profane, c'est-à-dire entre Dieu et l'homme. Et le corps de, il n'y a plus de distance entre même Dieu et le corps de l'homme, car Dieu s'est fait homme. D'un point de vue chrétien, Durkheim, en posant cette distinction entre le sacré et le profane, évoque sans le savoir l'abîme apparu entre l'homme et Dieu suite à la chute d'Adam. Les religions non chrétiennes dont il parle sont, d'un point de vue chrétien, des tentatives de se relier au divin. Mais de notre point de vue, ce véritable lien ne peut se faire qu'avec le Christ et qu'en Christ, qui lui-même est le lien éternel à la fois avec le Père céleste et l'humain. D'un point de vue interne, il n'y a plus rien à réguler. Nous, chrétiens, on n'a plus rien à réguler, car le régulateur ultime avec le grand R, c'est le Christ et pas nous. Donc, pour se sortir de la question piège qui, en général, nous mène au syncrétisme, pourquoi il y a plusieurs religions s'il n'y a qu'un seul Dieu, on peut dire, excusez-moi, le christianisme, c'est pas une religion, mais une anti-religion. Nous n'avons rien à faire par nous-mêmes, mis à part accepter le don et le porter en nous sans le perdre. Et oui, la démarche apologétique nous permet de faire des pirouettes et de sortir de la question piège, car elle ne nous concerne pas. Sinon, autrement, on peut toujours partir sur une explication longue et fastidieuse que vous savez, l'homme cherche à joindre Dieu, mais au passage, il va tomber sur des entités malveillantes. Donc finalement, on va faire ce que j'ai dit au départ, on va réduire toutes les religions existantes à des fausses religions, et on va les diaboliser qu'on le veut ou non. Même si on le pense, et la plupart le pensent, je sais. Ce n'est pas forcément non plus une bonne chose à faire et à dire face à un public agnostique, athée. C'est pas vraiment une bonne chose de sortir l'argument du diablotin comme ça. C'est vraiment pas une bonne option. Donc, beaucoup plus simple, c'est d'énerver le public, de déjà déclarer le christianisme comme une anti-religion, comme ça, ça va susciter encore plus de questions et on peut aller plus loin.
On peut creuser. Merci beaucoup, Justina. Alors, bientôt, nous pourrons écouter, puisque ce n'est pas encore le cas, le CD du spectacle musical Yeshua. Mais en attendant, replongeons-nous à l'époque de Malka en écoutant Bethléem. Voilà, le spectacle Yeshua dont nous allons parler a été déjà joué les 27 et 28 janvier dernier, mais heureusement, mon père, nous allons pouvoir en parler parce qu'il y a une suite.
Me voici ton serviteur, écoute, mille ans avant la venue de Jésus. Moi, Samuel, je me suis mis en route. Le prophète du peuple élu. Dieu vous a choisi un nouveau roi, mais comment cela va-t-il se faire si le roi Saül perce ce mystère? Dans l'instant, il me tuera. Envoyé par celui qui vous aime, je viens à Bethléem. Envoyé par celui qui vous aime, je viens à d'un grand secret, une mission pour changer l'avenir. Ouvrez vos cœurs, tenez-vous prêts. Envoyé par celui qui vous aime, je viens à Bethléem. Envoyé par celui qui vous aime, je viens à Bethléem. Du pain, a dans ses murs un nouveau roi, sur lui viendra fondre l'Esprit Saint, jamais son trône ne tombera. Envoyé par celui qui vous aime, je viens à Bethléem. Envoyé par celui qui vous aime, je viens à Bethléem. Celui qui vous aime, je viens à Bethléem. Envoyé par celui qui vous aime, je viens à Bethléem.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors Eric Libaud, créateur et réalisateur de Oura et Malka, est revenu en force avec le spectacle musical Yeshua depuis le 27 janvier 2024 au Palais des Congrès d'ici les Moulineaux. Cette pièce s'est jouée à guichet fermé à ces dates-là, mais il reste des places pour les 2 et 3 mars. Et mon père, le père Caz, qui est ici parmi nous et qui a déjà joué dans les deux premiers volets et qui joue de nouveau dans Yeshua, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez de nouvelles dates aussi.
Oui, le 23 et 24 mars, si je ne m'abuse, je n'ai pas mon agenda sous les yeux, mais en tout cas, c'est pour la fête des rameaux. Le samedi, le dimanche, je serai au TAM, voilà. Théâtre André Malraux.
Je suis très contente parce que cela veut dire que les gens se pressent de nouveau pour assister.
J'espère.
Bon alors mon père, merci beaucoup d'être là. Vous avez donc, comme je le disais, joué dans les deux premiers volets.
Oui.
Cette fois-ci, Yeshua.
Oui.
Et vous jouez qui ?
Nicodème, chapitre 3 de Saint Jean.
Alors, Nicodème a une place assez importante, mais vous en avez une autre aussi. Vous accompagnez, j'imagine, les acteurs, puisque comme vous êtes là depuis plusieurs années, forcément...
Depuis le début, ouais. Depuis le début. Ça a été pour moi une grande grâce d'ailleurs, d'accompagner tout le monde. J'étais leur curé, mais en même temps j'étais un acteur. Et quand je connaissais mal mon sujet, je me faisais discuter comme tout le monde.
Alors c'était tout à fait normal qu'il fasse appel à vous, parce que vous êtes déjà un vrai artiste, vous écrivez des poèmes.
Oui, je peins un peu, crée un petit peu, j'ai composé quelques pièces de théâtre, oui, bien sûr.
Donc, un vrai artiste. Votre place était tout à fait trouvée.
Et je suis dans le service diocésain Art, Culture et Foi, du diocèse de Nanterre.
Et vous aviez organisé une exposition ?
Deux.
Ah, deux ?
Deux,
oui. Très bien.
La première, c'était l'art, le prêtre et le diacre dans le diocèse.
Oui.
Donc, j'avais demandé aux amis prêtres et diacres de me prêter leurs œuvres d'art. Et puis, la dernière exposition, là, il y a peu de temps, c'était avec des artistes locaux de Courbevoie.
D'accord.
Ni prêtres, ni diacres.
Chrétiens.
Chrétiens, oui.
Ou habitants du diocèse.
Ou sympathisants.
Très bien. Alors, ce spectacle parle de la recherche de sens dans nos vies et de l'espérance de la foi dans un contexte contemporain et historique. Mathias, qui est le personnage principal, est un jeune de notre temps qui cherche Dieu. Et pour répondre à son questionnement, il se voit proposer la lecture de l'évangile de Saint Jean. Donc tout tourne autour de Saint Jean. Son immersion dans les textes sera telle qu'il ira jusqu'à vivre les scènes et rencontrer Jésus, amour infini qui le transformera. Alors des jeunes comme Thomas, vous devez sans doute en rencontrer, mon père.
Oui, bien que maintenant, vu mon âge, je ne suis plus du tout dans les aumôneries. J'en ai rencontré, oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. Alors, parlez-nous de ce spectacle, mon père.
Il y a deux personnages principaux dans ce spectacle. Il y a Jésus, bien sûr.
Bien sûr.
Et puis, il y a celui que vous venez de dire, Mathias, qui est un jeune qui va découvrir Jésus. En fait, le spectacle ne commence pas sur Jésus. Il commence justement sur ce jeune qui se pose des questions, qui veut monter un spectacle sur Jésus. Alors il va aller voir le prêtre qui lui a fait faire sa première communion.
Oui.
Et c'est à partir de ça que ce prêtre-là lui dit « Je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si tu es capable de faire un spectacle. Je ne suis pas metteur en scène moi-même, mais on va chercher ensemble et je vais te plonger, tu vas te plonger avec moi dans l'évangile de Saint Jean. » Et à la fin, on retrouvera Mathias, qui aura fait son cheminement, en espérant que, finalement, que nous tous, nous fassions à peu près un chemin similaire.
Identique, oui. Alors donc, nous retrouvons ce jeune Thomas tout au long de...
Mathias.
Mathias.
Il n'y a pas de mal.
Tout au long du spectacle musical.
Oui.
Si je dis spectacle musical, c'est qu'on m'a dit, attention, ne dis pas comédie musicale, parce qu'effectivement, c'est un spectacle. Les chants sont très beaux. Si vous avez... Chers auditeurs, vous connaissez déjà Oura et Malka. Nous retrouvons quand même bien la couleur de ces deux premiers spectacles. La sonorité, même si je crois que les compositions ne sont pas toutes d'Éric Libaud cette fois-ci, ou alors
non,
les arrangements, n'est-ce pas ?
Alors, Éric a écrit la plupart des textes et peut-être y a-t-il donné, alors je ne sais pas tout sur le spectacle, peut-être a-t-il donné une ligne musicale à droite et à gauche, mais un autre, Rémi, a beaucoup composé et Thierry Mallet aussi, qui est là et qui arrange au sens musical du terme, qui arrange les compositions musicales. Et puis nous sommes portés par, si je ne m'abuse, par l'orchestre de Prague.
Philharmonique de Prague,
voilà.
Oui, rien que ça. Oui, ça s'entend. Alors j'ai eu la joie d'assister aux répétitions. J'y ai retrouvé des visages.
Vous étiez où ?
Comment ?
Vous étiez où ?
Mais j'étais cachée derrière.
Mais vous étiez à laquelle ?
En fait, je suis allée à Vaucresson.
D'accord, parce que les répétitions se font dans la crypte de l'église à Vaucresson.
Alors là, je n'ai pas eu le droit d'y aller.
Oh.
Mais j'ai pris mes places de toute façon, donc je verrai le spectacle terminé. J'ai été très touchée parce que j'y ai retrouvé des visages familiers que j'avais, comme vous, étaient vraiment dans l'aventure Oura et Malka auparavant. 45 comédiens ? C'est oui, énorme.
Une petite cinquantaine, oui.
Ah oui, oui, oui.
Une petite cinquantaine oui. de tous âges. Plus, évidemment. On est en tout, la troupe, on est à peu près 160 personnes.
Oui. On n'a pas idée du travail que c'est. J'étais très impressionnée de voir...
Moi, je suis très impressionnée, par exemple, par les deux personnes qui sont accessoiristes. Oui. Parce qu'il y a plein de trucs, de choses, d'objets dont nous avons besoin oui. pour nos scènes. Mmh. Elles connaissent le texte beaucoup mieux que moi. Parce qu'elles sont toujours prêtes à nous donner l'objet qu'il faut quand on rentre, quand on sort, et c'est extraordinaire. Et puis les autres qui connaissent aussi bien le texte que moi, sinon plus, ce sont toutes les figurants, parce que c'est les figurants ou figurantes qui apportent les éléments du décor, et ça, le décor change à vue.
Oui.
Et l'autre partie aussi, l'autre catégorie de personnes qui connaissent bien aussi la pièce, ce sont les habilleuses, parce qu'elles doivent savoir quand on sort. Et donc, moi, je change cinq fois de costume. Donc, oui. il faut qu'elle sache à quel moment je sors. Donc, me donner le bon costume au bon moment. Et voilà. Et oui. puis, elles sont là nous sommes habillés en gros.
Les costumes sont magnifiques.
Il y a 250 costumes à peu près.
Ah, oui.
Et donc, il faut quand même qu'elle sache que tout est répertorié, étiqueté. Oui. Et il faut qu'elle sache à quel moment elle nous le donne, à quel moment elle nous le reprend, telle chose. Et moi, je suis absolument émerveillé de ce travail-là. Oui. Plus, évidemment, les autres qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire ceux qui transportent les décors. Oui. Ça, on ne les voit jamais, ceux-là. Mais
ils sont là.
Ils sont là.
Et sans eux, voilà. Rien ne serait si bien.
Les maquilleuses aussi. Mm-hmm. Je connais plein de choses maintenant sur le maquillage, sur le fond de teint, sur le blush, sur l'eyeliner. Je suis absolument imbattable là-dessus.
Alors, ce qui est magnifique, c'est que essentiellement, c'est une équipe de bénévoles.
Tout à fait.
Mais vous avez quand même des professionnels.
Oui, quelques professionnels. Notre maîtrise en scène, je ne sais pas comment il faut dire, oui. notre metteuse en scène, oui. Bénédicte, que vous avez d'ailleurs reçue, oui. est une pro. Celui qui va jouer Jésus est un pro aussi.
Oui.
Martin, c'est un pro, il s'est formé.
Alors, j'ai l'impression de voir Jésus.
En le voyant.
Ah, mais c'est sidérant.
Ah oui, mais vous avez peut-être aussi dans les yeux, si vous avez vu The Chosen.
Récemment, oui.
Oui, donc ils se ressemblent tous les deux, curieusement.
C'est vrai. Oui.
Celui qui joue Jésus dans The Chosen ressemble à Martin. Oui.
Mais en plus, il a une démarche posée. Enfin, il est exactement comme on imagine Jésus. Franchement, c'est un spectacle magnifique, très professionnel.
Oui, très.
C'est franchement, il faut y aller en famille. Toutes les générations puiseront
Absolument.
Quelque chose. Croyants, non-croyants, emmenons nos amis qui se posent des questions parce que finalement, ça touche tout le monde.
Vous savez, le jeune Mathias qui ouvre la pièce et qui va la conclure, c'est un peu chacun de nous qui se pose des questions. Et donc, celui qui se pose des questions en ce qui concerne la personnalité de Jésus, sa divinité, son humanité... Mmh. peut trouver là des réponses dans l'évolution même de Mathias.
Oui. J'étais très touchée lorsque j'avais échangé avec Éric Libaud de la figure du prêtre qui mettait en avant, de voir que ce prêtre qui accompagne Mathias est très touchant et j'étais très contente que, si vous le permettiez, que l'on sorte les prêtres du placard, qu'on les mette vraiment...
Un peu en avant.
En avant, exactement. Alors, si ça ne vous dérange pas, mon père, comme je vous le disais, nous sommes l'émission Magnificat. Nous avons une très grande dévotion à la Vierge Marie. Je disais à Eric, la Vierge Marie, dans ce spectacle, où est-elle? Et il me disait, mais elle est à la place principale lors des noces de Cana.
Oui, et à la croix aussi.
Et à la croix, bien sûr, oui. Mais voilà, il m'avait fait toute une catéchèse autour du fait de ce qu'il vous dira. C'était très touchant. Et vous pouvez me dire, vous, comment vous... qui est la Vierge Marie pour vous? Quelle place elle a dans votre vie?
Vous voyez, j'ai un anneau là. Oui. Je l'ai acheté il y a 2 ans à Bethléem.
Oui.
Il m'aide à dire mon chapelet tous les jours.
Oui.
Et voilà, il y a 10 grains C'est une manière aussi pour moi d'être lié aux chrétiens d'Orient.
Oui.
Voilà, auquel je pense à chaque fois que je dis une dizaine de chapelets. Mais la Vierge Marie, pour moi, bien sûr, elle a une place tout à fait particulière. Elle est elle-même, mais en même temps, elle est la figure de ce qui nous est promis à nous. Ce qu'elle vit d'une manière absolument unique,
oui.
C'est pour nous aussi. Enfin, combien de fois, après avoir communié, je me dis, je suis dans la même situation qu'elle lorsqu'elle portait Jésus dans son sein.
Ah oui,
je porte bien Jésus, sûr. Moi aussi. Oui. J'ai été, par exemple, très longtemps, alors je ne sais pas si nos frères orthodoxes, nos frères sont tout à fait d'accord, mais on couronne Marie. On couronne oui. Marie. Et pendant longtemps, j'ai été un petit peu contre cette dévotion. Et puis je me suis dit, mais c'est idiot, parce que nous aussi, il nous est promis que nous allons être un peuple de rois. Et donc le couronnement de Marie est pour moi le signe de ce qui nous attend, parce que nous serons aussi rois avec Jésus.
Oui.
Donc pour moi, quand je médite sur Marie, c'est une manière de rendre grâce déjà pour oui. elle-même, et puis pour me dire, c'est moi aussi qui vais vivre ça, à oui. ma manière à moi, pas à sa manière à elle.
Mm-hmm. Mais... pour répondre à votre question, non, on n'a pas de rite de couronnement de Marie, et encore moins le dogme d'Assomption avec ce qui s'ensuit, mais nous avons des représentations de Marie, puisque ce sont des répliques de gravure occidentale, où on voit bel et bien Marie couronnée. Et puis bon, c'est l'épître de Pierre où on parle du peuple élu de Dieu, le sacerdoce royal. Donc je pense que ça va de soi, il n'y a pas de contradiction.
Bon, merci beaucoup. Merci Justina pour d'avoir complété. Merci mon père. Alors pour acheter ces places en ligne, rendez-vous sur le site Hello Asso et recherchez Yeshua. Prenez vite vos places. Et maintenant à vos claviers, nous offrons deux places aux trois premiers d'entre vous qui m'enverront un mail à magnificat@mariedenazareth.com pour le 2 ou 3 mars. Donc, laissez-moi un mail. N'hésitez pas à me laisser votre numéro de téléphone pour que je puisse vous rappeler. Bonne semaine, mon père. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne semaine, Justina.
Merci.
À dimanche prochain.